apprend à connaître le monde et agit dans le monde. Alors que toi qui penses être un disciple, qu'est-ce que tu fais? Tu te dis, il y a un autre monde. On l'appelle le nouveau monde. Alors celui-là, celui des années 80, je n'en veux pas. Celui des années de l'après-guerre, je n'en veux pas. Ce n'est pas mon affaire. Moi, je suis déjà dans le nouveau monde. Moi, je pense déjà à l'ère du Verseau. Et que fais-tu encore? Tu dis, ah non, moi, je ne veux pas un métier profane. Moi, je suis intéressée par la spiritualité. Je veux bien être, par exemple, infirmier ou infirmière ou médecin ou professeur. Je veux quelque chose d'absolument social, mais il m'est impossible d'imaginer que je serai un agent commercial. Tout simplement parce que le métier, l'action, semble trop primaire. Et lorsque tu penses à ton mariage, tu dis, puisque je suis spirituelle, je veux rencontrer quelqu'un d'autre qui est aussi spirituel. Et si on a des enfants, ce ne sera qu'en petit nombre parce que je veux avoir du temps libre pour aller aux Indes trouver mon maître. Alors toi qui crois être un disciple, tu es en train de prévoir toute une vie qui ne fait que refuser la vie. Alors comment veux-tu être incarné? À partir du moment où tu dis ton monde, c'est celui qui va venir, c'est le prochain, ce n'est pas celui-là. Donc quand il y a la guerre d'un côté, ça ne nous concerne pas. Quand il y a la lèpre ailleurs, eh bien il faut penser que c'est la purification qui passe et je n'y pense plus. Chaque fois donc, tu ne te sens pas concerné par le monde. Par contre, là où tu te sens très concerné, c'est chaque fois que tu rencontreras quelqu'un dans la rue qui va t'insulter. Là, tu vas soudain te rappeler que tu fais partie du monde et que tu attends du respect. Et grâce à Dieu, d'une manière détournée, ton orgueil est le seul moyen de te faire rester dans cette incarnation si précieuse. Parce que tout simplement, tu ne vas pas supporter que l'on te parle de n'importe quelle façon. Tu ne vas pas supporter que l'on passe devant toi à un guichet. Ou tu ne vas pas supporter que l'on te coupe la route. Ou que l'on te prend la priorité. Tu ne vas pas non plus supporter que ta femme te trompe ou que ton mari regarde d'autres femmes. Tu ne vas pas supporter que les enfants n'aient pas toute obéissance. Tu ne vas pas supporter que les gens ne te jugent pas bien. Et en fait, c'est grâce à ce seul orgueil que tu es encore un peu vivant sur la terre, que tu penses encore à avoir quelques réactions dans ce monde. Et c'est le seul moyen par lequel le monde arrive encore à te toucher. Que peux-tu faire donc, si tu veux t'incarner? Car il n'y a qu'en étant incarné que tu pourras travailler à ton évolution. Parce que quoi que tu en penses, de fabuleuses énergies initiatiques peuvent passer en toi au moment où tu travailles, même si ce n'est que pour aligner des colonnes de chiffres. Du moment qu'à cet instant-là, tu es en train de commettre un acte de patience vis-à-vis de toi-même. Un acte aussi de connaissance, parce qu'il te faut apprendre à diriger ton mental de telle et telle manière. Quoi que tu en penses, tu t'enrichis. Et à partir du moment où tu vis cet enrichissement d'une manière consciente, d'une manière absolue, cet enrichissement n'est plus simplement pour ton mental qui sait désormais comment faire un bilan. Mais puisque tu as transformé cela en une culture de qualité spirituelle, cela devient un moment initiatique. Et tu te trouves en train d'additionner des chiffres en plein bonheur spirituel. Et derrière les chiffres, tu vois la lumière. Et dans la lumière, la vie. Et tu te dis, j'ai compris. Mais avant tout, incarne-toi. Fais chaque jour tous tes devoirs. Même le devoir qui est le plus primaire. Comme par exemple, prendre soin de ta maison ou prendre soin de ton corps. Nettoie bien ton corps. Tu penses souvent à le parfumer, à l'embellir, à lui faire ou un beau maquillage, ou une belle peau, ou à bien se raser que lorsque l'on est un homme. Mais penses-tu à prendre soin de ton corps, à le laver comme il faut avec conscience, comme tu laverais par exemple le corps de ton enfant, celui que tu aimes? Penses-tu à avoir conscience de l'acte que tu commets à ce moment-là? Non, ou tu le laves peu, ou tu le laves vite, ou tu te mets tout simplement sous la douche ou dans le bain, mais en fait tu négliges ton corps en tant que chose à nettoyer. Par contre, tu lui en demandes beaucoup quand il est une carte de visite et qu'il s'agit d'avoir jolie figure, joli corps, jolis cheveux. Là oui, tu prends du temps à l'embellir. Alors que la beauté, la première, c'est celle que tu vas lui construire au moment de le nettoyer. Sais-tu qu'il y a une multitude de choses disgracieuses que tu peux enlever si tu nettoies ton corps de cette manière-là? Par exemple, si en un endroit de ton corps, il y a une difformité qui ne te plaît pas. Je prends par exemple un bourrelet de graisse, ce qui fait la terreur des femmes et même parfois des hommes. Ou une accumulation d'eau quelque part, qui fait que le corps ressemble à un corps graisseux. Eh bien, si tu laves ton corps tout simplement pour qu'il ne sente pas mauvais, ou pour le préparer pour ton époux, pour ton épouse, pour la nuit, si tu le laves simplement dans ce sens-là, et pas dans le sens occulte, eh bien, ces bourrelets vont rester. Alors, écoute-moi, je vais te dire comment les enlever. Mais pour les enlever, il faut que ta conscience soit pleine au moment de l'action. D'abord, il faut que ta salle de bain soit un endroit comme un temple. Chaque pièce de la maison, bien sûr, doit être comme un temple. Mais la salle de bain, un petit peu plus qu'ailleurs, parce que c'est l'endroit où tu vas délivrer ton corps et ton aura d'une multitude de particules et d'énergie désagréables. C'est donc ce qui précède le temple, ce qui précède la méditation. Cette salle de bain, donc, doit être pour toi l'endroit où tu laves ton âme et ton véhicule, mais au sens spirituel. Alors, comment enlever ces choses disgracieuses? Eh bien, d'abord, accomplis le mouvement en pleine conscience, comme si, en fait, tu étais en train de méditer les yeux ouverts. Crée en toi, comme je te l'ai déjà dit si souvent, ce centre de gravité dans lequel tu te places et qui peut être par excellence le centre de ton cœur. Et à cet endroit-là, essaye d'y mettre toute ta conscience et aide-toi dans cet exercice, comme je te l'ai déjà dit, par le respire. Au moment où tu respires, loge-toi dans ton chakra. Et au moment où tu expires, loge-toi dans le même chakra, mais celui qui est à l'extérieur, dans le corps éthérique. Dans cette conscience-là, tu prends alors de l'eau dans tes mains et tu asperges ton visage 3 fois. Il n'est pas nécessaire de se jeter tout de suite sur le savon et le gant de toilette. Les énergies ne sont pas évacuées par le savon ou le gant de toilette. Au contraire, le gant va fixer les énergies. Ce qui fait que 2 heures après, quand tu utiliseras pour autre chose de nouveau le gant, les énergies seront toujours là. Donc d'abord, chasse les énergies de l'aura. Nettoie d'abord ton aura. Et l'aura se nettoie à grande eau. Alors tu prends de l'eau dans tes mains et par 3 fois, tu gicles cette eau sur ton visage. Puis tu passes au nettoyage avec le savon et le gant de toilette. Et là, il faut que tu aies conscience, non pas que tu laves cette figure que tu te connais depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans ou 60 ans, et à laquelle, ce visage auquel tu reproches toujours le même nez, les mêmes oreilles, les mêmes cils à épiler. Il faut que tu aies l'impression de nettoyer la tête du temple. Exactement comme si tu te trouvais à l'intérieur du temple qui aurait la forme d'un homme. Et dans ce temple, tu serais un moine qui aurait la charge de nettoyer à longueur de journée toutes les pièces du temple. Alors commence à nettoyer la tête du temple. C'est l'endroit où Dieu pense. C'est l'endroit par lequel Dieu regarde. C'est un autel sacré. Comme tu nettoierais la nappe blanche de l'autel, nettoie ton visage. De la même manière, avec le même état d'esprit, nettoie tout le reste de ton corps. Et pour enlever dans les recoins du temple ce qui s'y est accumulé, il faut que tu y mettes la lumière. N'oublie pas que le corps de l'homme est comme un temple et que toi, de temps en temps, tu peux être le moine qui nettoie le temple. Et donc, s'il y a des coins que tu as négligés, automatiquement, des araignées s'y seront accumulées et tu appelles cela les bourrelets. C'est tout simplement que tu n'as pas bien nettoyé. Mais nettoyer comment? Certes pas avec le savon, nettoyer avec ton esprit. Donc il y a quelque part dans ta pensée, dans ton cœur, quelque chose qui s'est accumulé et qui est une salissure. Pour enlever cette salissure, regarde bien quelle est ta pensée quotidiennement. Est-ce que par hasard, tu ne critiques pas trop? Est-ce que par hasard, tu ne jugerais pas trop vite? Ou est-ce que par hasard, chaque fois que tu auras eu l'occasion de faire le bien à telle personne, tu t'es trouvé toujours une bonne occasion pour ne pas le faire? Ou bien est-ce que par hasard, un jour, tu aurais fait, même sans le vouloir, du mal à quelqu'un? Tu t'en es rendu compte, mais trop honteux, tu n'as jamais voulu faire l'effort sur toi-même pour aller demander pardon et réparer ton acte. Crois-tu que toutes les choses que tu fais, toutes les choses que tu dis, toutes les choses que tu accumules en pensée, crois-tu que toutes ces choses en restent au niveau du geste et au niveau de l'esprit? Pas du tout. N'oublie pas que puisque tu es dans l'incarnation, toutes les énergies qui sont en haut vont descendre dans le bas. Donc la pensée que tu as dans ta tête, elle ne va pas simplement rayonner comme on te l'a enseigné, comme peut rayonner un radar, ou comme un son peut être émis depuis une radio. Cette pensée, en plus de rayonner, va descendre dans la matière, et pas simplement dans la matière de l'autre auquel tu penses, mais aussi dans la tienne. Et donc, quelque part, si cette pensée est un déchet spirituel, quelque part, le déchet va se créer aussi dans ton corps. La déformation ou tout simplement l'accumulation ou la désorganisation des organes. Tout va se précipiter et tout va se projeter dans ta matière. Donc, quand tu regardes le bourrelet que tu as dans le creux des cuisses, ou au niveau du cou, sur le ventre, ou ailleurs. Demande-toi quelle est la mauvaise pensée que tu as le plus souvent, ou quelle est la léthargie que tu entretiens le plus souvent. Et généralement, soit la mauvaise pensée que tu as, ou la léthargie que tu entretiens, va se coller immanquablement à l'endroit où le chakra lui-même n'arrive pas à fonctionner, ou bien sur le chakra qui est en large béatitude, par exemple, de fainéantise et de farniente. Ce qui fait que beaucoup de personnes qui ne se prennent pas en main, beaucoup de personnes qui ne font rien, ont tendance à développer énormément la grosseur du ventre. Et ceci, non pas parce que c'est ce qui attend toute personne qui mange beaucoup, c'est vrai que l'on peut avoir du ventre parce que l'on mange beaucoup. Mais l'on pourrait aussi très bien éliminer si l'on mange beaucoup. Pourquoi est-ce que l'homme devrait garder la nourriture? Mais le corps garde la nourriture de la même manière que l'esprit garde les énergies. Et si c'est par exemple l'énergie d'amour que tu n'arrives pas à exprimer, soit par timidité, soit parce que 10 fois on t'a tapé sur les doigts et que maintenant tu n'arrives plus à t'ouvrir, soit tout simplement parce que tu es véritablement bloqué, pas suffisamment évolué pour comprendre ce qu'est l'amour, eh bien automatiquement, il va y avoir la même accumulation dans ton corps. Ton corps va aussi retenir tout ce que tu lui donnes comme nourriture. Alors que si tu es ouvert à l'extérieur, quoi que tu manges, ce sera au contraire une autre forme d'énergie pour amplifier ton rayonnement et le faire chaque fois plus grand. Alors, puisque j'ai dit cela et que je connais la nature humaine, je suis certain, mais absolument certain, qu'en sortant d'ici, tous les individus vont juger ceux qui sont gros comme étant des personnes qui n'acceptent pas de rayonner. Je le sais, c'est immanquable. C'est pour cela que je parle pendant si longtemps, je torture vos oreilles si longuement, parce qu'il me faut prévoir toutes les réactions de votre mental et expliquer tout en détail. Que dire des maigres alors? Parce qu'alors, à ce moment-là, les maigres paraîtront comme étant les initiés les plus immenses. Ils rayonnent tellement qu'ils n'arrivent même plus à avoir de la peau sur les os, n'est-ce pas? Eh bien, le maigre n'est pas pour autant un initié. Parce que le maigre peut être quelqu'un qui, justement, perd ses énergies. Quoi qu'il mange, il perd, il consomme ses énergies, soit par exemple par fantasme mental. Et Dieu sait que le mental consomme énormément d'énergie, soit par nervosité, soit par colère répétée. Et Dieu sait que la colère consomme énormément d'énergie. Alors vous allez me dire, mais alors qu'en est-il d'un petit gros très coléreux? Il devrait maigrir. Bien sûr, il devrait maigrir à ce compte-là, puisque la colère consomme de l'énergie. Mais je n'ai dit la chose que pour amuser, il n'y a aucune réponse à cela. On ne peut pas juger donc quelqu'un sur son apparence, sur le volume de son corps. Cependant, il faut savoir, par exemple, si l'on est un guérisseur et que l'on essaye d'aider une personne et que l'on voit qu'il y a un blocage du chakra cardiaque, un blocage de l'amour. Et si cette personne-là a en plus une tendance à grossir, une tendance à prendre du ventre, à respirer profondément avec le ventre, alors là, les deux informations donnent à conclure que cet individu a un problème de rayonnement de l'amour. Mais si l'on prend un autre être qui, lui, est simplement bon vivant et qui se contente de manger, de manger, de manger toute la journée. Son évolution est telle que il n'est pas un initié, mais il est quand même un brave homme. Il ne peut pas encore s'intéresser au cosmos, mais il a quelque part en lui une étincelle spirituelle qui le fait même être parfois plus spirituel que les ésotéristes qui savent tout. Mais c'est simplement par élan du cœur, par simplicité d'esprit. Si cet homme-là est gros, il va de soi que c'est simplement parce qu'il mange trop. Alors n'essayez pas de le sauver spirituellement, lui prétendant qu'il faut qu'il travaille son chakra cardiaque. Cela ne lui servira en rien. Il faudra au contraire lui faire travailler le chakra de ses instincts pour qu'il contrôle son attrait pour la matière, pour la gourmandise. Donc quand je dis quelque chose, il ne faut pas tirer de subites conclusions, je le répète. Mais ça donne quand même l'occasion de sourire un peu. Mais ce sourire ne vient pas de moi. Le fait que vous puissiez rire ne vient pas de moi, ne vient pas de ce que je dis, parce que je ne fais que dire ce que vous, vous pouvez penser. Donc vous ne riez pas de ce que j'ai pu inventer, mais bien du comportement que vous risquiez d'avoir dans quelques instants. Et si vous êtes capable de rire de vous-même, je peux vous le garantir, vous êtes sauvés. Plus que par la bénédiction de tous les maîtres, plus que par la bénédiction du roi du monde ou du logos solaire dont je parlais au début du discours, vous êtes sauvés. Si vous riez de vous, vous êtes le plus grand des initiés. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le mental est détruit. Il n'a plus cet orgueil. Il n'a plus sa limite. Il est devenu fou, tout simplement. Il rit de tout et tout le fait rire. Il est devenu fou. Et il est devenu fou d'une folie qui est saine. Parce qu'il ne veut plus se laisser conditionner par la personnalité, par les petits intérêts humains, par le fait d'avoir à la jupe 3 plis au lieu de 4 parce que cela fait mieux rebondir l'arrière-train. Ce mental qui est devenu fou de cette folie-là n'a plus rien à faire avec toutes ses conceptions. On lui dit qu'il est idiot, il en profite pour rire, parce que c'est vrai que c'est une immense plaisanterie qu'on vient de lui dire. Celui qui vient de lui prétendre qu'il est idiot, c'est une plaisanterie, car il sait bien qu'il n'est pas idiot. Et le fou se met à rire de l'idiotie qui a fait prononcer à l'autre cette plaisanterie. Tandis que celui qui se prend trop au sérieux n'a pas le sens de l'humour. Il ne fait que de l'humour noir. Et si je lui dis « tu es bête », alors il se froisse. Alors il ne veut pas accepter. Il ne veut pas laisser tomber ses valises. Et pourtant, être fou, ce serait la meilleure façon de vous faire évoluer. Mais bien sûr, je ne serais plus crédible à ce moment-là. Plus personne ne me croirait, plus personne ne voudrait m'écouter. Tout le monde s'entendrait pour conclure que je suis peut-être fou, mais je suis fou d'une folie qui n'intéresse personne et qui n'amène pas à Dieu. Et pourtant, si sage que je paraisse, et si normal que je paraisse, si vous suivez bien ma parole, pas à pas, si vous vous développez dans le sens de mes conseils, vous serez amené à être fou. Et pourtant, c'est un être normal qui vous y aura entraîné. Mais il faut que je paraisse normal, n'est-ce pas ? Pour que ceux qui redoutent la folie de Dieu puissent y aller sans savoir que c'est la folie qui les attend. Parce que sinon, ils auront peur. Ils auront peur, ils trembleront et ils ne comprendront plus rien à ce qu'est Dieu. Parce que pour l'instant, l'homme qui est normal pense que Dieu est une chose. Il dit il y a la justice. Il y a l'amour, il y a le pouvoir, il y a les anges qui gardent l'univers, qui sont la sécurité de l'univers, qui font attention à toutes les énergies. Il y a les maîtres qui, avec amour et sacrifice sérieux, viennent sur terre, se sacrifient pour initier les hommes afin que les hommes remontent vers Dieu. Tout ceci est un schéma tellement sérieux. D'abord, lorsque l'on pense que Dieu juge, que Dieu est la justice. C'est une idée tellement sérieuse. Alors que Dieu éclate de rire lorsqu'il veut rendre justice, ce n'est que dans un grand éclat de rire. Et à quel propos est-ce qu'il rit ? Alors que l'homme l'imagine sérieux. Dieu rit tout simplement parce qu'il voit une autre partie de lui-même qui est en train de croire la plus sinistre des âneries. Et qui est, par exemple, la bêtise de vouloir devenir un grand politicien, ou un grand mannequin, ou un grand acteur, et de se sentir très important quand on est dans les jours de la gloire, et d'envisager de se suicider parce que soudainement on devient inconnu. C'est une bêtise. Et l'autre partie de Dieu qui est restée entière, qui est le témoin en quelque sorte, quand il voit l'autre partie de lui-même s'amuser à être cela, cela ne peut que le faire rire. Cependant, l'homme, qui est l'endroit de l'erreur, est en même temps l'endroit de la souffrance. Et l'homme, à ce moment-là, ne rit pas. Il ne rit pas du tout. Et de ce fait, il pourrait imaginer que ma parole est une offense, parce qu'au fin fond de sa douleur, je lui dis que Dieu rit. Et pourtant, est-ce que tu ne ris pas toi-même une fois que tu es sorti de ta souffrance, quelques jours ou quelques années plus tard, quand tu contemples les causes de la souffrance, est-ce que parfois tu ne ris pas toi-même en te disant « mais qu'est-ce que j'étais bête ?» Qu'est-ce que j'étais étroit d'esprit? Qu'est-ce que j'étais attaché à cette chose qui finalement ne vaut rien du tout? Cela ne vaut pas tous les pleurs que j'ai versés. Alors si toi-même tu peux tirer cette conclusion à propos de toi-même, quelque temps plus tard, imagine ce que peut dire Dieu qui, à l'instant de la souffrance, continue à savoir qui il est. Cependant, il ne peut pas empêcher que la souffrance ait lieu. Parce que si longtemps que tu voudras souffrir, il devra souffrir avec toi. Donc, comment enlever ces aspects disgracieux du corps et de l'esprit? À l'endroit où il y a en toi quelque chose qui ne va pas, pose ta main. Et si tu as fait toute la méditation, tout le nettoyage dans l'état d'esprit dont j'ai parlé tout à l'heure, ta main à ce moment-là sera chargée de vibrations et d'amour. Ne t'attends pas à sentir un feu immense. Ne cherche pas forcément quelque chose de matériel. Mais sache que la vibration d'amour, la vibration de la présence spirituelle que tu auras développée en ayant ce comportement, la vibration sera là. Et applique tes mains à l'endroit où ça ne va pas, à l'endroit où il y a l'accumulation ou la difformité. Tu verras, si tu fais cela chaque jour, et qu'en plus de cela, tu t'efforces à être le Fils de Dieu toute la journée durant, et que tu alchimises tes vibrations, cela disparaîtra. Ce n'est pas une vaine promesse que je te fais. C'est tout simplement l'élocution d'une loi qui existe et qui n'attend que le déclic de la volonté de l'homme pour s'effectuer. Et quel est ce déclic? Eh bien, encore une fois, et comme je l'ai dit au début du discours, c'est de prononcer un oui absolu à la spiritualité. Et non pas simplement de se laisser emporter comme une feuille est emportée par le vent, se laisser emporter dans la curiosité, ou un désir qui n'est pas suffisamment mûr, pas suffisamment fait à propos de Dieu, ou bien un désir qui tombe dès qu'il y a la première épreuve, dès qu'on lui dit « mais attention, si tu commences le chemin spirituel, il ne faudra plus manger de charcuterie, plus de pâté, plus d'œufs mayonnaise, et il te faudra abandonner tes beaux vêtements, et il te faudra abandonner tes coiffures sophistiquées, pour que ta personnalité n'érige aucune résistance de la sorte. Sache que je te donne le droit de tout faire. Je te donne le droit absolu de tout continuer tel que tu le fais aujourd'hui. Tu manges du saucisson, continue, mais fais-le en regardant Dieu dans les yeux. Et tu verras que ton corps t'indiquera si cet aliment est bon pour toi ou s'il ne l'est pas. Ce qui fait que cesser de consommer cet aliment sera une acceptation personnelle. Tu consentiras depuis le profond de ton cœur et de ta conscience parce que l'ordre ne viendra que de toi. Et c'est cela que je veux que tu obtiennes. Je veux que tu obtiennes de toi-même tous les consentements à propos de la spiritualité. Cela ne sert à rien. Crois-moi, depuis le temps que l'homme existe, nous en avons l'expérience. Cela ne sert à rien de dire à l'homme « Tu ne mangeras plus ceci, tu ne fumeras plus de la sorte, tu ne boiras plus cela, tu ne toucheras plus à la femme ou à l'homme, tu ne penseras plus ces choses. » En quelques mots, l'homme finit par se dresser un paysage d'interdits trop puissant et il abandonne l'Église, il abandonne Dieu. Parce qu'un tel Dieu, c'est vrai, paraît inacceptable. Et l'homme a tout à fait le droit de réclamer la tolérance de Dieu. C'est parfaitement justifié. L'homme est sur la terre et il n'est qu'un homme. Et il a le droit de réclamer la tolérance de Dieu. Et il a le droit de montrer sa tranche de saucisson au soleil et lui dire « Pardonne-moi, Seigneur, mais j'en mange encore une, mais je la mange avec joie, comme si c'était ton hostie. Et c'est à force de tout dévorer, comme si tout était une hostie, que l'homme finit par faire le choix de lui-même entre ce qui est bon et entre ce qui est moins bon, entre ce qui apporte des vibrations légères et ce qui n'apporte que des vibrations lourdes. Je ne veux donc pas te dire, écoute, pour être disciple, dès demain tu feras ceci, tu feras cela, tu cesseras l'alcool. Continue, Dieu est tolérant. Il a tant d'amour pour toi qu'il te laisse faire tout ce qui te plaît. Parce que la vie, c'est aussi, entre autres, lorsque l'on est un homme, la vie est aussi un grand gâteau à croquer. Et ce plaisir, même s'il est enfantin, l'homme veut pouvoir en bénéficier. Donc, je te l'accorde, sois certain. Mais simplement, mets Dieu dans chaque chose. Et à ce moment-là, tu verras que lorsque tu mangeras, ce sera avec un plaisir différent, un plaisir supérieur. Et puis plus loin, tu vas te dire, mais finalement, le plaisir que j'en tire, ce n'est pas par rapport au goût que la chose a, mais parce que j'ai l'impression de manger le corps de Dieu, l'offrande de la nature, l'amour de cette offrande. Et alors, tu te départageras de toi-même, de ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon. Donc, dès demain, continue à faire tout ce que tu fais, mais permets à Dieu d'être présent partout. Et comment feras-tu la chose? Eh bien, chaque fois que tu devras boire, ou manger, ou fumer, pense à consacrer cet aliment ou cette distraction. Fais hostie de toute chose. Tu prends un bout de pain, ce n'est pas un vrai repas, c'est juste une miette de pain, et bien avec conscience, en une seconde, trace le signe de croix et dis ceci est le corps du Christ, Corpus Christi. Et si tu n'aimes pas employer le nom du Christ, et bien emploie le nom, par exemple, du roi du monde ou du grand architecte de l'univers, si tu es de cette philosophie, ou emploie le nom de Kutumi, ou de la Vierge Marie, peu importe, trouve-toi ce qui te fait vibrer. Et dis, ceci est le corps du Maître. Et mange, même si c'est avec gourmandise, mange. Et tu verras qu'en quelque temps, la nourriture semblera t'apporter des forces différentes, beaucoup plus puissantes, beaucoup plus longues aussi dans le temps. Quand tu bois, fais la même chose. Ceci est le sang du Christ. Et tu fais le signe de croix, ou le sang du grand architecte, ou le sang de Kutumi. Et tu bois. De la même manière, quand tu mets un vêtement, ne te dis pas simplement « je mets sur mon corps une étoffe ». Il faut que tu aies l'impression d'habiller le corps de Dieu avec une étoffe venue de Dieu. Si tu spiritualises chacun de tes mouvements, chacun de tes gestes, chacune de tes pensées, automatiquement ta vie devient une spiritualité. Et tu n'as pas besoin de rentrer dans des écoles. Tu fais mieux que ce que tu pourrais faire dans une école. Tu sais davantage que ceux qui sont dans ces écoles et qui lisent des livres. Tu sais que Dieu est partout. Parce que c'est ces gens qui lisent pendant des heures tous les livres. Ces gens qui font des rituels ensemble pendant des heures ne savent pas ce que tu sais et ils font toutes ces choses pour arriver à l'instant où ils seront capables de le savoir. Ils cherchent Dieu dans les livres, ils cherchent Dieu dans le rituel. Mais comme ils ne le cherchent pas en eux-mêmes, ils ne le trouvent pas. Alors fais comme si tu l'avais déjà trouvé. Parce que tu pourrais me dire, eh bien, ton discours est bien beau, je vais mettre Dieu partout, mais il n'empêche que moi, en sortant d'ici, je vais de nouveau me sentir comme j'étais en rentrant. Je vais continuer à être qui je suis Je vais continuer à sentir ce même goût à propos de ma psychologie et de mon caractère. C'est vrai, bien sûr. Mais alors je te dis, fais comme si tu avais déjà trouvé Dieu. Et c'est en faisant comme que tu verras son rayonnement sortir. Vois-tu, il y a plusieurs façons de planter la graine. Soit en ayant un grand oiseau et en chargeant les ailes de cet oiseau d'une multitude de graines, et puis il faut attendre le jour J, l'heure H, l'humidité correcte du terrain, l'ombre exacte aussi, pour envoyer l'oiseau afin qu'il lâche les graines, et les graines, en tombant le jour J, leur hache dans l'humidité du terrain qu'il faut, vont pouvoir germer. Ça, c'est ce qu'on appelle la méthode classique. C'est la méthode dont parlent souvent d'ailleurs les maîtres quand ils disent que l'on ne peut être initié que lorsque les énergies seront montées au niveau du centre cardiaque. Et que pour aller du centre cardiaque au centre du troisième œil, il va falloir 10 incarnations durant lesquelles on verra telle ou telle épreuve s'avancer. Bien sûr, cette voie-là existe et elle est véritable. Mais il y a aussi la voie de l'homme simple. Celui qui se dit « Dieu est mon maître ». Et puisqu'il est mon maître, dès maintenant et dès aujourd'hui, il n'admettra pas que nous perdions du temps pour nous rencontrer. Il fera de moi son fils. Même si je ne peux pas être encore son prophète, son grand guérisseur, son grand instructeur, son grand initié, il me reconnaîtra. Et cette illumination-là, comme je vous l'ai dit si souvent, elle est possible. Se faire reconnaître de Dieu est une chose possible, quel que soit votre niveau initiatique. Alors que si vous attendez le niveau initiatique pour être reconnu de Dieu, alors il vous faudra vivre avec ce que vous êtes pendant très longtemps. Mais se faire reconnaître de Dieu est un acte instantané et possible, qui que vous soyez. Il y a donc une différence entre la reconnaissance et l'initiation. La reconnaissance est une chose qui vient lorsque l'homme comprend et admet que Dieu est toute chose et qu'il est en lui, en tant que toute chose. Et que dès cet instant, il décide de lui offrir toute sa vie, même s'il réserve une part de sa vie pour continuer à vivre un peu comme chaque homme. Du moment que Dieu habite son cœur et qu'il ait sa conviction et que quoi qu'il se passe, l'homme a confiance dans ce Dieu-là. Ce Dieu-là est sa certitude. Cette reconnaissance, c'est ce qui permet à l'homme, quel que soit son niveau initiatique, de vivre comme un bienheureux, jusqu'à l'intérieur des épreuves, parce que jusqu'à l'intérieur des épreuves, il aura la foi et la flamme d'appeler Dieu pour l'aider. Et cette façon-là d'aimer Dieu et d'aller vers Dieu existe. Et elle est une bonne manière d'aller vers Dieu et d'imaginer Dieu en attendant de basculer dans son concept impersonnel. Vous avez le temps de basculer dans son concept impersonnel. Tant que vous êtes des enfants, prenez le temps d'être ces enfants, justement, mais d'être bien les enfants de Dieu, pas celui de l'ignorance, pas l'enfant de l'orgueil, pas l'enfant de la convoitise. Renoncez à ses parents. Et même s'il vous semble avoir Dieu pour père et quelquefois de continuer à être ambitieux, eh bien, faites-vous confiance. Au lieu de vous juger comme vous faites si régulièrement pour ceux qui tentent d'être disciples, regardez votre erreur avec amour pour vous-même. Puisque vous êtes suffisamment conscient de savoir que vous devez vous en débarrasser, si vous avez commis encore un faux pas, ayez de l'amour pour vous-même et dites-vous « Demain, je ne le commettrai plus. » Et demain, effectivement, essayez de ne plus le commettre. Et vous verrez que Dieu habitera votre vie. Et pour que Dieu habite votre vie, pour avoir cette reconnaissance, eh bien faites comme si vous aviez rencontré Dieu, comme si vous étiez donc le plus grand des initiés, et remplacer cette connaissance, celle de l'initié qui se connaît lui-même, remplacez-la par la foi aveugle, la foi qui ne demande rien, qui n'a pas besoin de preuves, qui existe simplement parce que l'amour est là. Faites ces choses dans ce sens et vous verrez que la vie changera, la vôtre et celle du monde entier, si vous pouvez donner le mot à vos voisins et les induire dans le même comportement. Donc, pour revenir à la question qui était posée, est-ce qu'il est utile de rentrer dans les écoles initiatiques ? En considérant le discours que je viens de faire, vous devez pouvoir conclure vous-même que la plus grande des écoles initiatiques qui soit, c'est la vie elle-même, c'est la planète elle-même. Que le plus grand des rituels qui soit, c'est votre action dans le monde, votre façon de jouer avec les événements du monde. C'est votre façon de devenir orgueilleux ou humble. Et dans ce sens, ou vous ferez de la magie noire, ou vous ferez une messe. Si vous vous servez des événements de la vie et de la société pour devenir de plus en plus orgueilleux, vous utilisez le temple de la terre et le temple de la vie pour faire une messe noire, parce que vous devenez de plus en plus contraire à la divinité. Lorsque votre vision aura dépassé le regard qu'elle pose sur les instruments qui sont dans les écoles, pour regarder ces instruments comme étant partout à l'extérieur dans la rue, chaque homme sera un temple à part entière. Et à ce moment-là, le temple qui existe devient l'endroit d'un véritable rituel d'évolution, et non plus une imitation burlesque de ce qui devrait avoir lieu si le disciple avait compris quelque chose. Peut-être que vous, vous aimez les vaudevilles, mais nous ne les apprécions pas à l'intérieur du temple. Quant à cause des clés que nous vous avons données, vous pouvez convoquer les anges du rituel et leur faire perdre tout leur temps. Si bien qu'à un moment donné, ce sont les anges eux-mêmes qui y revendiquent et qui disent « Non, 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 ce groupe là-bas, nous, on ne veut pas y aller, c'est terminé. » Même s'ils appellent à grands coups d'encensoir et à grands coups d'épée tous les anges de l'univers, je n'y mettrai plus ma robe, c'est fini. Et comme cela, nous avons régulièrement des anges du rituel qui viennent et qui nous apportent les listes des groupes dans lesquels ils ne veulent plus aller. Et nous sommes très ennuyés. Alors on discute et on leur dit « Mais tu es sûr ? Tu es vraiment certain que ça ne vaut pas la peine d'y retourner une fois, juste une fois. » Et l'ange croise les bras et dit « Non, 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 c'est terminé, si tu savais ce qui se passe. » D'abord, il n'arrive même pas à secouer l'encensoir en cadence. Ensuite, il y a le maître de cérémonie qui lève l'épée dans n'importe quel endroit. Il ne sait même pas qu'il faut se mettre avec l'Orient dans le dos. Il a disposé son temple n'importe comment, il y a n'importe quelle couleur. Pour ce rituel-là, nous savons bien que le rouge est nécessaire. Eh bien, lui, il a tout changé. Il a mis du rose. Comment veux-tu que l'on travaille ? Et puis, si tu voyais les auras que nous devons approcher, pendant que l'un dit une phrase du rituel, il y a l'autre qui pense au repas qu'il fera ensuite, parce qu'entre-temps, il n'a pas pu manger, il est dévoré par la faim. Ou bien il y en a un autre qui pense à la voisine. Par exemple, aux jolis yeux de la voisine. Ou encore, il pense à ce que sera sa journée de demain, au fait qu'il emmènera ses enfants à une fête ou à un mariage. Il est impossible de travailler avec les hommes. Alors, je veux bien t'obéir, maître, nous dit l'ange, mais s'il faut que quelqu'un aille là-bas, eh bien, vas-y toi-même, moi je n'y vais plus. Alors, nous fermons des dossiers. Et nous acceptons ce que l'ange dit, et nous lui donnons raison. Mais seulement l'ange sait qu'il doit trouver un remplaçant. Il sait que s'il se retire d'un endroit, il doit trouver un autre groupe. Et souvent, il va à l'endroit où l'âme brille le plus. Il quitte le temple où tous les instruments sont là depuis des âges et des âges. Et il va dans un tout petit village qui ne sera même jamais connu du monde. Mais simplement parce que dans ce petit village, il y a trois âmes qui brillent plus fort, plus fortement que les autres. Et ces trois personnes se voient régulièrement avec amour et sympathie, au début pour boire le thé, puis ensuite pour parler de Dieu, et puis après pour méditer. Et au milieu de ces trois personnes, alors l'ange déploie tout ce qu'il peut donner et qu'il aurait dû donner à ceux qui continuent de faire le rituel dans un temple qui est déserté par l'ange. Donc, vous me demandez si il est nécessaire d'entrer dans des écoles? Bien sûr, c'est utile de rentrer dans des écoles. Si vous y allez en pensant que le temple de la vie est le plus grand temple et que la loi qui y est écrite et décrite dans tel livre, c'est cette même loi que vous allez rencontrer sur le trottoir, dans votre rue, au moment où vous allez rater l'autobus, ou bien au moment où un enfant va vous faire une bêtise qui vous mettra en colère, ou un croche-pied qui vous fera tomber.